village.
Tout le village que vous voyez aujourd'hui, après 3-4 mois, c'était un champ de bataille. Vous savez, comme dans les films, ça sentait la mort partout. C'était très sombre, vraiment sinistre.
Il s'appelle Nipa, est apparu en Malaisie à la fin des années 90 et continue depuis de faire des apparitions régulières en Asie. Alors qu'il devient de plus en plus incertain d'avoir dans un futur proche une explication détaillée de l'origine du Covid-19, un autre virus relativement peu connu inquiète lui aussi l'OMS et les scientifiques. Si l'on a pu recenser pour l'instant que 1000 morts au total, avec un taux de mortalité situé entre 40 et 75%, et une période d'incubation qui peut durer jusqu'à 45 jours, ce virus qui touche le cerveau reste considéré comme l'une des menaces les plus sérieuses sur le plan épidémiologique. Les mystères du très mortel virus Nipa, c'est un grand reportage de Gabriel Maréchaux.
You arrived at Kampen, so Nipa.
Pour le GPS, Nipa est un village comme tant d'autres en Malaisie, bordé de plantations d'huile de palme à quelques minutes du détroit de Malacca. Pour les épidémiologistes, Nipa est un virus méconnu et dangereux, mais pour Jaycee, Nipa c'est d'abord l'endroit où il a grandi.
À l'époque, c'était un village très jeune. On jouait souvent au basket ici, derrière l'école, et tout cet endroit était très dynamique.
Si le village a toujours cette école où Jaycee est allé enfant, ce sont surtout des personnes âgées qui y vivent aujourd'hui dans des rues au nom de fous. Comme beaucoup, Jaycee a lui aussi fini par partir dans une ville plus grande, à 40 km de là. Mais il n'a jamais pu oublier ce qu'il s'est passé à Kampung Sungai Nipa quand, en quelques mois seulement, début 1999, toutes les familles ont vu certains des leurs mourir d'un mystérieux virus.
Les années qui ont suivi, quand je disais que je venais du village Nipa, les gens avaient un mouvement de recul et ils pensaient tout de suite « Ah, le village du virus !» Parfois aussi, certains se montraient alors très curieux.
Mais le temps a depuis passé et l'histoire du village Nipa a été reléguée au rang de souvenirs lointains dans les mémoires malaisiennes. Pour lutter contre l'oubli, Jaycee a donc participé à la construction d'un petit musée près du temple du village et fait aujourd'hui des kilomètres avec sa voiture pour s'improviser guide, raconter ce que l'on voit sur les images affichées.
Ça, c'est notre ministre de la Santé de l'époque. Vous voyez, il n'a aucune protection alors qu'il rencontre un malade et qu'il est proche de lui, sans distance de sécurité. Personne ne savait alors à quel point ce virus était dangereux.
Personne ou presque aussi ne voulait se rendre à l'hôpital dans cette région peuplée surtout de Malaisiens d'origine chinoise travaillant dans ce qui était alors l'industrie de viande de porc la plus importante d'Asie du Sud-Est, se rappelle Jaycee.
Beaucoup de gens ne sont pas allés se faire soigner à l'hôpital car ils ne voulaient pas s'arrêter de travailler. L'élevage, vous savez, c'est un travail quotidien. C'est 365 jours par an, 24 heures sur 24. On ne peut pas prendre des jours de repos.
Jaycee, lui, a fini par y aller, raconte-t-il devant ce petit musée une fois la visite terminée.
J'avais 14 ans en 1999. Je vivais alors avec mes parents et quand je n'étais pas à l'école, je les aidais pour l'élevage des porcs. Ce qu'on a d'abord trouvé terrible, c'est qu'avant que des hommes commencent à mourir, on a tous vu beaucoup de cochons agoniser à cause de ce virus encore inconnu. Puis un jour, j'ai fini par voir un premier homme mourir de la même façon et c'était mon père. Moi ensuite, j'ai eu surtout une très forte fièvre. Une très grande fatigue, et comme on ne savait pas à ce moment-là que c'était un nouveau virus, on m'a donc soigné pour une fièvre lambda. Je suis très chanceux aujourd'hui de n'avoir aucune séquelle et d'être en bonne santé après ça. Sinon, je ne pourrais pas être là à vous raconter tout ça. Malheureusement, beaucoup de nos amis ont été vraiment moins chanceux. Ils ont survécu, mais quand ils se sont rétablis, ils ont gardé de grandes séquelles de ce virus. Et certains doivent vivre aujourd'hui avec de graves problèmes neurologiques. Ils n'arrivent plus à penser normalement et bougent très lentement.
Monsieur Lim, ami de Jaycee qui le rejoint alors, s'estime aussi chanceux. Il avait lui 25 ans en 1999.
Je suis revenu au village le deuxième jour après les premiers signes de cette maladie. Je travaillais alors dans la ville de Nilai. Je suis rentré en vitesse dès que j'ai appris qu'il y avait quelque chose de bizarre. J'ai pris mon père et ma mère et je les ai emmenés hors de la zone. Mon père n'était pas content du tout. Il avait alors un petit élevage de cochons et il ne voulait pas partir. Pas tellement pour des questions d'argent, mais parce qu'il ne voulait pas laisser ses animaux seuls à l'agonie. Mais je l'ai forcé. Il ne m'a jamais vraiment dit merci pour ça. Peut-être qu'il l'a pensé dans son cœur, mais il ne me l'a pas dit.
Et quand JC et M. Lim sont finalement revenus à Nipa, entièrement évacués en mars 1999, le village qu'ils découvrent n'a plus rien à voir avec l'endroit où ils ont grandi.
Tout le village que vous voyez aujourd'hui, après 3-4 mois, c'était un champ de bataille. Vous savez, comme dans les films, ça sentait la mort partout. C'était très sombre, vraiment sinistre.
Nipa virus. La mort qui embaume alors l'air moite du village, c'est celle des cochons d'élevage, car après avoir soupçonné pendant plusieurs mois un virus transmis par les moustiques, la corrélation entre l'élevage intensif et cette nouvelle maladie qui tua la moitié des personnes contaminées de cette région devient de plus en plus évidente pour les autorités qui prennent donc des mesures radicales. Une gestion sanitaire dont on ne trouve presque plus de traces, si ce n'est quelques photos, au musée du village Nipa, ou bien dans cette archive de la télé australienne où l'on voit des hommes de l'armée malaisienne en combinaison blanche tuer au fusil plus d'un million de cochons en quelques jours et les jeter dans une fosse à la va-vite. Et au moment où l'armée exécutait tous ces animaux contaminés, la docteure Adiba Kamarul Zaman tâchait à la Kuala Lumpur de soigner les malades qui arrivaient dans son service depuis la région de Nipa. Deux décennies plus tard, on la retrouve au même endroit, désormais fort occupée avec la pandémie de coronavirus. Cet infectiologue qui a enchaîné entre-temps les postes et titres prestigieux prend sur sa pause déjeuner pour nous raconter ses souvenirs.
Je partageais un bureau ici, au 12e étage, avec plusieurs autres médecins. Et l'un d'eux, un jour, a dit « Vous savez, il y a une maladie neurologique assez bizarre qui est apparue dans la région de Perak. Je me demande ce que ça peut bien être. » Il ne s'est pas passé grand-chose ensuite, pendant plusieurs mois. Puis, soudain, c'est ressurgi, plus près d'ici, dans la région de Nipa. On s'est alors redemandé « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et l'instant d'après, des malades ont commencé à arriver dans cet hôpital. Je me rappelle alors voir des patients qui arrivaient le matin, après avoir ressenti une forte fièvre, une toux pendant plusieurs jours. Et l'après-midi même, après leur admission, ils devaient déjà être sous respirateur. La sévérité des symptômes, la progression fulgurante de ce virus était très très effrayante. Et puis, on ne connaissait alors rien de cette maladie. On devait donc essayer de comprendre rapidement comment elle se transmettait et en même temps rassurer le personnel soignant. Je voulais leur dire qu'ils ne craignaient rien, mais il y avait tant d'incertitudes. On ne savait pas ce que c'était, ce qui causait cette maladie.
La première intuition des autorités malaisiennes est alors de soupçonner une flambée subite d'encéphalite japonaise, une maladie neurologique virale transmise par les moustiques pour laquelle il existait déjà un vaccin. Dans un premier temps donc, la région de Nipa est en veille de nuages de pesticides et l'on vaccine à tour de bras. La presse locale et internationale parle alors d'encéphalite japonaise et à l'hôpital on tâche de dépister à la chaîne cette maladie sans grand succès.
Certaines prises de sang et certains tests sérologiques de ces malades montraient des anticorps à l'encéphalite japonaise. C'est comme ça qu'on est d'abord parti sur un mauvais diagnostic. Pourtant, depuis le début, le neurologue de notre équipe trouvait que ça ne collait pas tout à fait. Il disait, ce serait une forme très étonnante d'encéphalite, car les patients avaient aussi des contractions musculaires dans l'abdomen et d'autres symptômes qui ne correspondaient pas aux symptômes classiques de l'encéphalite. Mais après tout, très peu d'entre nous avaient déjà vu des patients atteints d'encéphalite japonaise. Et puis à cette époque, cela faisait un certain temps qu'on n'avait pas découvert un nouveau virus. Après le Nipa, on a eu le SARS, Ebola, Zika, le MERS et aujourd'hui le Covid. Avant tout ça, les zoonoses, les nouvelles maladies étaient des phénomènes qui n'arrivaient pas, sauf pour le sida.
Mais à force de voir des malades continuer à arriver, l'hypothèse d'un nouveau virus progresse et le chef de l'équipe du docteur Adiba prend alors une décision risquée mais déterminante. envoyé dans un vol commercial aux États-Unis, Ko Bing-chwa, le virologue de l'équipe, avec dans son bagage à main le virus inconnu qu'il a commencé à cultiver. Sous les microscopes électroniques plus performants des autorités sanitaires américaines, la confirmation d'un nouveau virus est alors faite et en Malaisie, un tournant capital s'opère.
En utilisant des écouvillons prélevés dans la gorge et dans l'urine, on a finalement réussi à isoler et séquencer le virus. C'était très effrayant, mais ça a permis une grande avancée pour gérer cette crise. Car quand on a enfin pu identifier et comprendre cette maladie, et en tuant tous les cochons qui la transmettaient, on a pu stopper l'épidémie.
Mais derrière les porcs, découvrent ensuite les chercheurs, l'origine du virus Nipah remonte à un autre animal, objet de beaucoup d'attention et d'interrogation, surtout depuis la pandémie de coronavirus.
Des chauves-souris tropicales.
Et si l'apparition du Covid-19, le rôle possible de la chauve-souris dans celle-ci, reste encore mystérieux, l'histoire du virus Nipah est-elle désormais bien connue ? À la fin des années 90, la menace qui pèse sur les habitats des chauves-souris frugivores avec la déforestation et des années de sécheresse inhabituelles ont amené ces mammifères à trouver des nouveaux lieux pour se nourrir proche d'élevages de porcs intensifs où la propagation du virus s'est ensuite emballée. Mais si le virus ne circule plus parmi les hommes en Malaisie depuis la mise à mort des cheptels de porc, il reste présent en Asie du Sud et du Sud-Est parmi les populations de chauves-souris frugivores et se transmet à l'homme à épisodes réguliers au Bangladesh et en Inde notamment. Le Nipah fait également partie de la liste des agents pathogènes classés prioritaires de l'OMS en raison de leur danger potentiel au milieu de virus aux noms plus familiers comme Ebola, Covid-19 ou Zika. Moins connu du grand public, le virus Nipah a pourtant déjà pu inspirer un film hollywoodien.
Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker.
Ce sera la panique générale. Tout va basculer, on cache la vérité au monde.
Un scénario catastrophe, pour l'instant tout à fait fictif. Julien Capel est écologue au CIRAD, spécialiste des interactions entre animaux sauvages, pathogènes et groupes humains. Presque 25 ans après les premiers cas de Nipah, il rappelle que le virus reste un danger, surtout potentiel.
On a là un virus qui est présent chez un animal au contact de l'homme, qui passe régulièrement chez les humains et qui en plus a la capacité de transmettre d'humain à humain. Alors assez mal, mais suffisamment pour que ça crée des petits foyers. Et donc ça fait vraiment un virus à surveiller. Au Bangladesh, on a eu vraiment des chaînes de transmission plus importantes jusqu'à quelques dizaines de personnes contaminées. On pense que s'il y avait suffisamment de passages réguliers et d'adaptation du virus aux humains ou à une espèce mammifère proche qui pourrait faciliter, là, on peut avoir des grosses épidémies pour le coup.
Pour prévenir un tel scénario, mieux connaître les interactions entre l'homme et les chauves-souris frugivores, identifier les pratiques à risque est donc clé. Et c'est justement ce que s'est appliqué à faire le docteur Capel en menant une étude intégrée multidisciplinaire sur 4 ans dans des zones rurales du Cambodge. Ces résultats montrent quelque chose de plutôt surprenant lorsqu'on les compare aux situations en Malaisie, au Bangladesh et en Inde. Si le virus Nipah circule bel et bien chez les chauves-souris dans les provinces cambodgiennes, de Kandal et Battambang, les populations qui vivent à leur contact, elles, et qui ont été testées par les scientifiques, n'ont jamais été contaminées. Pour expliquer cela, le docteur Capel donne des précisions sur les méthodes de récolte de jus de palme, moment privilégié de contact entre hommes et chauves-souris.
Au Bangladesh, où là on a régulièrement des petits foyers de Nipah, presque tous les ans depuis 20 ans en fait, il y a une pratique particulière qui est la consommation de jus de palme, cru, après avoir collecté le jus de palme, dans des grands récipients en terre cuite qui sont attachés au tronc des palmiers. On fait un trou dans le tronc du palmier pour que s'en écoule la sève. Et en fait, ça donne la possibilité aux chauves-souris, qui elles aussi sont intéressées par cette sève, de venir boire dans ce grand récipient et de contaminer. Au Cambodge, on s'est intéressé à cette pratique. Ils font aussi du jus de palme, mais en fait, c'est du nectar de palme et la façon de le collecter est complètement différente. C'est des containers en bambou ou en plastique beaucoup plus étroits dans lesquels ils rentrent les fleurs de palmiers pressées pour récolter le nectar. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour les chauves-souris de venir boire et contaminer ça.
Et alors que dans le monde entier, la chauve-souris devient dans les esprits une menace sanitaire inquiétante, Julien Capel tient à rappeler que toutes les espèces sont potentiellement porteuses de pathogènes qui, transmises à d'autres, peuvent être dangereuses et que les particularités du système immunitaire des chauves-souris sont encore très méconnues, elles aussi.
Les premiers éléments montrent qu'il y a peut-être des particularités de l'immunité des chauves-souris. Parmi les hypothèses, il y en a une sur le fait que les chauves-souris auraient un système immunitaire qui est actif de base par rapport à d'autres mammifères qui ont besoin de l'activer suite à une infection, et que ça leur permettrait en fait d'être plus tolérantes à des infections qui vont être beaucoup plus graves chez d'autres espèces qui n'ont pas ce système activé de base. Et le fait qu'elles aient ce système activé de base, ça pourrait être lié au fait que le vol a évolué chez les chauves-souris, que le vol induit des coûts métaboliques importants et qu'il y a besoin d'activer en permanence un système de réparation qui serait conjointement activé avec ce système de veille et immunitaire qui permettrait aux chauves-souris d'être plus résistants.
Mais alors que les scientifiques s'arment d'humilité et de patience pour percer les mystères des chauves-souris comme du nipah, l'idée d'exterminer une espèce réservoir potentiel de pathogènes, elle progresse dans les esprits. Une solution pourtant extrêmement nuisible, alerte le docteur Capel.
Les tentatives d'extermination de réservoirs, en général, ça se solde par des échecs, voire des actions complètement contre-productives. Ça a été le cas, par exemple, pour les blaireaux en Angleterre qui portent la tuberculose bovine et qui peuvent la transmettre. Et le fait de venir essayer d'abattre et d'éradiquer la population de blaireaux a simplement fait que les blaireaux ont quitté la zone pour essayer d'échapper à l'éradication. Ils ont donc propagé la tuberculose et ils ont fini par revenir une fois que les campagnes d'abattage étaient terminées.
Cohabiter avec les chauves-souris sans détruire leur habitat, c'est la tâche que s'est fixée une femme en Malaisie, la docteure Shima Abdulaziz, à la tête du projet Pteropus, le nom latin des chauves-souris frugivores, porteuses potentielles notamment du virus Nipah. Mais depuis quelques années, son but s'est considérablement compliqué, déplore-t-elle.
Les chauves-souris ont été liées dans l'esprit des gens à des maladies et cela a causé une certaine peur, surtout dans les pays occidentaux, où les chauves-souris sont en plus souvent associées aux démoniaques, aux diables, aux sorcières, aux vampires. Une réelle phobie des chauves-souris s'est donc développée au fil des siècles, surtout en Europe. Et comme la culture occidentale influence le monde entier aujourd'hui, cette réputation négative s'est répandue dans d'autres régions du monde, même dans des cultures où ces animaux, historiquement, suscitaient des perceptions très positives, comme ici en Asie.
Depuis l'arrivée du Covid, elle voit même des années de prévention réduites à néant.
Je suis très inquiète. Des gens ici ont tué des chauves-souris car ils pensaient qu'ils allaient attraper le Covid à cause d'elles. J'ai aussi constaté que des personnes ont commencé à refuser de travailler avec moi ou de soutenir mes efforts de conservation des chauves-souris frugivores car elles ont peur d'être associées à l'image négative et à l'hostilité dont sont victimes les chauves-souris.
Mais là où des efforts ont été faits localement pour mieux faire connaître l'importance des chauves-souris pour la pollinisation et la survie des écosystèmes, l'absence de danger qu'elles représentent si l'on ne menace pas leur habitat, la cohabitation semble être paisible, comme sur l'île malaisienne de Tioman, en mer de Chine. Pourtant, d'après les données les plus récentes, jusqu'à 20% des populations de chauves-souris de l'île auraient développé des anticorps au virus Nipah. Mais ce nom ne fait pas peur du tout à Jeffrey, qui vit sur la côte ouest de l'île.
J'étais enfant à l'époque de l'épidémie de Nipah et je n'avais pas de consignes strictes. Je passais mon temps à jouer dehors et ici, on n'a jamais eu aucun problème. Parfois, les chauves-souris viennent dans nos maisons, mais on les attrape et on les remet dehors.
Même son de cloche au village Jouara, à l'opposé de l'île, chez Paklan, militaire à la retraite.
On ne les voit pas beaucoup, elles sortent la nuit. Les chauves-souris sont gentilles, elles pollinisent et nous permettent d'avoir des fruits. Mais elles ne viennent jamais dans mon jardin, elles restent surtout dans les plantations, pas trop proches de nos habitations. Elles mangent des durianes, mais bon, on en a beaucoup de durianes, donc ce n'est pas un problème.
La nuit tombée, les chauves-souris de Tioman continuent donc de voler près des rivages et l'on aperçoit parfois dans les halos des réverbères leur envergure impressionnante, jusqu'à 1,70 m pour ces roussettes de Malaisie. Sur l'île de Tioman, dont la préservation de l'écosystème est inscrite dans des lois, leur habitat n'est pas menacé. Mais dans le reste de la Malaisie, difficile d'en dire autant. Depuis l'épidémie des années 90, le pays a très strictement encadré l'industrie du porc, désormais interdite dans la région de Nipah. Mais la déforestation, qui avait obligé les chauves-souris frugivores à conquérir les vergers près des élevages et donc des hommes, a elle considérablement augmenté, avec depuis la découverte du virus, presque un tiers des forêts du pays rasées.
Les mystères du très mortel virus Nipah, un grand reportage de Gabriel Maréchaux, réalisation Eva Piedel.